Salut.
Mais non, il y a une vie après normal.
Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Y'a une vie après normal. Nous continuons donc à explorer cette semaine la haute fonction publique en recevant Sophie Coutor, administratrice civile, chargée du projet ACT à la Direction Générale des Collectivités Locales. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup donc d'avoir accepté notre invitation. Commençons tout de suite cet entretien. Alors, tout d'abord, pour vous présenter un petit peu à nos auditeurs, vous avez un profil assez particulier puisque vous êtes normalienne, donc issue de Fontenay, mais vous intégrez la haute fonction publique par un concours exceptionnel et pas par la réussite de l'ENA comme on a déjà pu l'entendre dans nos émissions. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce parcours un petit peu atypique et comment vous en êtes arrivée à la Direction Générale des Collectivités Locales ?
Oui, merci. Ben, c'est un peu difficile de répondre à cette question. D'abord, je crois que j'étais une fontenaisienne atypique dans la mesure où j'ai préparé le concours de Fontenay pour plus pour être avec des amis qu'en me projetant dans un projet professionnel. Et donc j'ai fait une année d'hypocagne. D'abord, je m'étais inscrite en histoire et puis après, toujours pour être avec des amis, je suis passée en lettres modernes. Que j'ai peut-être eu tort de faire d'ailleurs, ce que j'ai un peu regretté rétrospectivement. Et après, j'ai fait une année de cagne à Versailles, et donc au bout d'une année de cagne, j'ai intégré Fontenay en lettres modernes. Très vite, j'ai demandé à la directrice de Fontenay de bien vouloir de l'époque, qui devait s'appeler Madame Bonamour, ou un nom comme ça, de bien vouloir me dispenser de passer la licence de lettres et puis les concours de l'enseignement. Et je voulais préparer Sciences Po. Et elle m'a refusé cette autorisation. Et voilà, j'ai obéi et ça a été le début d'une longue carrière d'obéissance. Et là encore, rétrospectivement, je ne suis pas sûre d'avoir bien fait. Donc j'ai continué mes études de lettres sans enthousiasme excessif, même si j'aimais énormément les lettres. J'aimais énormément la poésie et le théâtre. C'est un goût qui ne m'a pas quittée. Et donc j'ai passé les concours sans grande conviction. J'ai été admissible à la grecque, mais je ne l'ai pas eu. Et me retrouvant propulsée dans le monde de l'éducation nationale, j'ai eu confirmation de ce que j'étais pas faite pour ça, ou ce monde n'était pas fait pour moi. Et donc, tout en enseignant, eh bien, je me suis mise à préparer l'ENA, ce qui n'était pas très simple. D'autant que, comme je n'avais pas fait Sciences Po, je n'avais pas fait d'études de droit, je manquais de formation juridique. Donc j'ai essayé de me former toute seule avec les documents. J'ai pris quand même une année sabbatique pour suivre des cours à Sciences Po Bordeaux. J'ai réussi à être admissible à l'ENA, mais pas au-delà. Et donc, ben, j'ai repris, comme il fallait quand même que je mange, j'ai repris sans grand enthousiasme le chemin de l'éducation nationale. Et au bout de 4-5 ans d'enseignement, j'ai été servie par la chance parce que c'était au moment de la première vague de ce qu'on a appelé la décentralisation des années 80-82. Et le ministère de l'Intérieur ne trouvait plus beaucoup de sortants de l'ENA tentés par l'administration préfectorale. On avait auguré que cette première décentralisation, enfin on ne savait pas que c'était la première, mais disons que cette décentralisation se traduirait par une diminutio capitis pour les membres du corps préfectoral. Et donc les jeunes énarques se détournaient de la préfectorale. Et c'est à ce moment-là que le ministre de l'Intérieur de l'époque a créé un concours de recrutement exceptionnel ouvert aux admissibles à l'ENA, que j'ai passé et que j'ai eu. Et nous étions 18 reçus, puis je crois qu'il y en a 3 qui ont finalement renoncé, donc on a été 15 pris. Et donc c'est ce qui m'a valu le fait d'intégrer le corps préfectoral, de quitter le corps enseignant et d'intégrer le corps préfectoral grâce à un concours de recrutement exceptionnel, ce qui fait toujours un peu bizarre dans un CV, dans un curriculum vitae.
Alors donc, vous dites que vous n'étiez pas faite pour le corps enseignant. Qu'est-ce qui vous attirait dans l'ENA et dans l'administration à ce moment-là, quand vous étiez jeune enseignante ?
Eh bien, d'abord, j'avais C'est très difficile de répondre à cette question, mais si je réponds le plus franchement possible, je vais être malheureusement un peu abstraite. J'avais une espèce de mythique du service public et du service de l'ENA, du service de l'État, pardon, lapsus révélateur. J'avais une très haute idée du service de l'État, et c'était pour moi ce qui, dans un monde laïque, recueillait certains vestiges d'onction sacrée. Je voulais me dévouer à l'État. J'avais peut-être trop lu Hegel, ou je ne sais pas. J'avais pris, en fait, un peu peut-être tout ça un peu au pied de la lettre, qu'il s'agisse des grandes figures de l'histoire française, telles que Sully, Richelieu, beaucoup d'autres. Et j'avais une mystique du grand commis de l'État, et puis aussi l'idée que l'État incarnait la raison, le bien, enfin une vision, j'ai cité Hegel, mais peut-être que je devrais dire un peu platonicienne de l'État, comme une incarnation des valeurs. Il n'est pas totalement assuré que ce genre d'idée a priori, comment dire, soit un excellent viatique pour la suite d'une carrière.
Alors justement, ce dévouement à l'État aujourd'hui, vous avez été donc dans le corps préfectoral, notamment à Verdun. Vous êtes aujourd'hui à la Direction générale des collectivités locales. Ce dévouement, comment vous le regardez aujourd'hui et comment vous regardez plus largement le service de l'État ?
Eh bien, j'ai fait 5 postes en territorial, donc en préfectoral. J'ai été directeur de cabinet de préfet, j'ai été sous-préfet d'arrondissement. Effectivement, comme vous le disiez, mon dernier poste, c'était Verdun. D'abord, c'est bien évidemment une erreur de croire que les choses vont rester immuables. Et le corps préfectoral que j'ai connu quand je suis entrée dans cette carrière, donc c'était 88-89, et ce qu'il est devenu maintenant, ça n'a plus rien à voir. Après la première vague de décentralisation, il y en a eu une seconde, et l'équilibre des forces, pour parler simplement, entre les représentants de l'État central et puis les collectivités territoriales, n'est plus du tout, mais plus du tout, celui qu'il était. Ce qu'il était il y a de cela 20 ans. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans mon parcours, je m'aperçois que j'ai été extrêmement franco-française, que mon goût pour l'histoire qu'on enseigne beaucoup d'une façon très franco-française, ou en tout cas à mon époque qu'on enseignait d'une façon franco-française, y a été pour quelque chose, c'est probable. Mais il est sûr que aussi cette focalisation sur le droit administratif, le droit public, le droit administratif français, le droit constitutionnel français, a favorisé ce qu'on pourrait appeler des œillères. Et ce que vous ne dites pas, c'est que à un moment, je suis encore plus atypique que ça. Et pourtant, Dieu sait que je n'ai pas recherché l'originalité. J'ai au contraire voulu toujours être conforme, mais apparemment, j'ai toujours été un peu décalée. Avant Verdun, j'ai travaillé dans le privé. Je suis une des rares hauts fonctionnaires qui n'étaient pas des finances, qui étaient donc destinés d'une certaine façon à passer dans le privé. Enfin, je dis bien d'une certaine façon, parce que c'est plus compliqué que ça. Je suis une des rares donc hauts fonctionnaires françaises à être passée dans le privé. C'est rare pour un homme qui n'est pas de Bercy. C'est encore plus rare pour une femme, pour des raisons que je ne développerai pas, mais qu'il est bien aisé de reconstituer dans son quant à soi. Donc, je suis passée par l'entreprise privée. Ça m'a ouvert les yeux sur le rôle de l'État dans une société et ce que doit être le rôle de l'État dans une société. Et après être repassé en préfectoral à Verdun, j'ai rejoint le centre de prospective qui n'existe plus, mais qui existait à l'époque au ministère de l'Intérieur, ce qui m'a permis d'avoir enfin une vision, synchronique, c'est-à-dire de voir comment ça se passait dans les autres pays et, il faut bien le dire, dans les pays anglo-saxons. Alors tout ça a considérablement remis en cause l'idée que je me faisais du rôle de l'État au sein d'une société. On est fatalement, mais ça c'est aussi lié au vieillissement, il faut bien le dire, mais c'est ce que Simone de Beauvoir exprimait admirablement à la fin, je crois, de la force de l'âge. On se sent floué, mais on se sent fatalement floué. Il est sûr que l'État en France vit ce qu'il faut bien appeler une espèce de diminutio capitis face d'abord aux autres personnes publiques qui sont les collectivités territoriales et puis d'autres aussi, enfin, sans entrer dans le détail. Et notre conception de l'État française, franco-française, vit aussi une diminutio capitis, je dirais, face au modèle qui est de plus en plus prévalent au niveau international, qui est le modèle anglo-saxon, avec un État infiniment plus modeste et infiniment plus de pouvoir donné, pour faire simple, encore une fois, à tout ce qui est monde économique et monde financier. Alors, je ne dis pas du tout que ce soit qu'on aille là vers un optimum et que le monde anglo-saxon représente un optimum par rapport à la conception traditionnelle française, mais simplement c'est une donnée dont il faut tenir compte.
Et alors donc aujourd'hui, vous dirigez le projet ACT que j'ai évoqué en commençant l'émission. Alors, je n'ai pas voulu effrayer les auditeurs, mais je vais le dire. ACT signifie aide au contrôle de l'égalité dématérialisée. Alors, est-ce que ce projet-là participe justement du processus que vous venez d'évoquer, d'adaptation plus vers un modèle anglo-saxon et d'une diminution des structures fortes de l'État ? Est-ce que c'est ça l'objectif de ce projet ?
Alors, on pourrait effectivement le dire ainsi, ou plus exactement, le projet ACT est impacté par le mouvement vers plus de modestie étatique que j'évoquais tout à l'heure. En fait, le seul fondement constitutionnel de l'existence du corps préfectoral sur le territoire, c'est l'article 72 de la Constitution française qui dispose, je ne cite pas exactement de mémoire, mais qui dispose que les actes pris par les collectivités territoriales sont soumis au contrôle du représentant de l'État. Alors, ce contrôle, traditionnellement, c'est un contrôle fait papier. C'est-à-dire qu'on envoyait les délibérations, les arrêtés, les décisions individuelles, les contrats signés des collectivités territoriales aux préfets, aux services préfectoraux qui doivent toujours d'ailleurs les contrôler. Alors le projet ACT, c'est quoi ? Eh bien, ça consiste à dire qu'au lieu d'utiliser le support papier, on peut maintenant les envoyer aux préfectures de façon dématérialisée. Donc je suis la directrice du projet qui consiste à créer sur l'ensemble du territoire français et à développer, puisque c'est déjà créé, ce contrôle de l'égalité de façon dématérialisée. Alors en quoi est-ce impacté par ce mouvement d'une diminution des structures de l'État, au moins sur le territoire ? Eh bien, ça l'est parce que ce projet ACT est déployé corrélativement à ce qu'on appelle la RGPP, c'est-à-dire la réforme générale des politiques publiques, qui consiste, pour faire simple, à diminuer le nombre de fonctionnaires. Et tout particulièrement à diminuer le nombre de fonctionnaires affectés au contrôle de l'égalité. Ce qui signifie que, outre son objectif premier qui était de transmettre de façon électronique les actes soumis au contrôle de l'égalité, ce projet ACT dont je suis la directrice doit également essayer de mettre en place ce que j'appellerais de façon un peu outrecuidante, des, entre guillemets, contrôles automatiques. Et c'est pas si simple que ça. Pour pallier, justement, la diminution du nombre de fonctionnaires affectés à ce contrôle de l'égalité. Donc, d'une certaine façon, l'État est bien sûr toujours présent sur le territoire et est toujours celui qui donne le « là » en matière de l'égalité, puisque sont soumis tous les autres actes des autres personnes publiques, c'est-à-dire les collectivités territoriales, sont soumis au contrôle de ces représentants sur le territoire. Certes, c'est toujours l'État qui donne le « là », mais qui donne le « là » avec moins de moyens.
Et alors, justement, les médias font parfois état du mécontentement des collectivités territoriales à l'égard des réformes en cours, et notamment de la RGPP. On entend souvent dire que le poids accru des responsabilités et des fonctions qui sont données aux collectivités territoriales ne sont pas suivies d'un transfert budgétaire ou financier. Et est-ce que, justement, l'e-administration, si on peut dire, une administration qui serait... dématérialisée, ne participe pas justement à ce sentiment des collectivités locales d'être un petit peu abandonnées à elles-mêmes par l'État, et cette diminution localement de la place de l'État, est-ce qu'elle n'est pas peut-être dangereuse, ou en tout cas est-ce qu'elle peut être désavantageuse pour justement l'organisation et la communication ?
Alors franchement, est-ce que les collectivités locales ont des raisons de se plaindre du développement de l'e-administration? Si je vous fais part de ma conviction profonde, non. Non. Je pense au contraire que c'est un moyen, d'ailleurs plusieurs études ont été menées dans ce cadre, c'est un moyen pour les collectivités locales de dépenser moins d'argent. Il est moins cher pour elles de se raccorder à l'application Acte que d'envoyer sur papier. Ah bah, puis alors, envoyer sur papier, on n'envoie pas un exemplaire, hein. Il faut prévoir 6, 7, 8, 10 exemplaires avec le timbre qui va bien, avec l'essence pour acheminer tout ça, etc. Donc je pense que c'est plutôt intéressant pour les collectivités territoriales d'utiliser l'application Acte. Ce qui ne veut pas dire, attention, ce qui ne veut pas dire que vous ne trouverez pas ça et là des déclarations d'exécutifs de collectivités territoriales, de maires, de présidents de conseils généraux ou régionaux qui diront peut-être un petit peu le contraire. Ça, c'est possible. Mais ma conviction profonde, c'est que ça va au contraire dans le sens d'une simplification des relations entre l'État et les collectivités, et ça va dans le sens aussi d'une moindre dépense pour les collectivités. L'autre élément, à mon avis, à prendre en compte, c'est que c'est d'autant plus intéressant que, comme vous le savez, il y a en France quasiment autant de communes que dans tous les autres États de l'Union européenne pris ensemble. Et ça peut être un moyen pour les petites collectivités, pour les petites communes, pour leurs petits établissements publics aussi, d'exister, parce qu'ils auront justement cet accès Internet. Alors, je dis ça quand même avec précaution, c'est possible, notamment quand il y a un accompagnement à l'aide au changement, et cet accompagnement actuellement ne peut être dispensé que par les conseils généraux ou des structures qui sont mises en place peu ou prou par les conseils généraux. Il faut quand même une aide au changement, notamment quand, vous imaginez, dans une petite mairie, il n'y a qu'un secrétaire de mairie qui est là à temps partiel. Mais je pense que ça va aussi dans le sens de donner une visibilité et des moyens d'action à toutes ces petites communes qui, sinon, il faut bien le dire, risquent quand même d'être un peu laissées sur le chemin par l'inflation législative et réglementaire à laquelle nous assistons depuis 30 ans. Enfin, au moins depuis 20 ans.
Mais justement, voilà, cette mise à niveau, elle coûte aussi en temps et en moyens. Et donc, les petites collectivités territoriales, il faut leur donner les moyens. Oui. Alors, je pense que oui, c'est peut-être pris en compte par votre projet.
Alors, ça n'est pas moi qui prends en compte l'aide des collectivités territoriales, l'aide aux collectivités territoriales, pardonnez-moi. Moi, je m'efforce de prendre en compte l'aide aux préfectures. D'accord. Mais les collectivités territoriales sont aidées par leur structure propre, le CNFPT, Centre National de la Fonction Publique Territoriale, et puis aussi les grosses collectivités territoriales auxquelles Acte ne pose aucun problème, qu'il s'agisse des conseils généraux ou des grosses communes ou des gros établissements publics de groupements intercommunaux tels que les communautés d'agglomération, les grosses communautés de communes, les communautés urbaines. Elles ont les moyens de venir en aide aux petites communes. Moi, je l'aurais beaucoup moins. Les services de l'État auront beaucoup moins cette possibilité. Cela dit, les préfectures ont pour mission, les préfectures et les sous-préfectures ont pour mission de réunir les maires de leur circonscription administrative pour leur faire connaître les intérêts d'Acte et les moyens de s'y raccorder.
D'accord. Bien, merci beaucoup donc, pour avoir accepté de débattre un petit peu autour de ce projet. Maintenant, je voulais un petit peu changer de sujet et évoquer avec vous un tout autre aspect de votre parcours qui est peut-être d'ailleurs lié à votre expérience dans le privé, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Il s'agit de l'association IDEFI qui agit pour la promotion de l'expertise française à l'international et en Europe. Vous en êtes membre fondatrice. Alors pourquoi cette diversification dans vos activités? Est-ce que c'était un besoin, une envie qui viendrait d'où?
Oui, c'était une envie, en fait, vous avez tout à fait raison, est un peu issue de mon passage dans le privé, puisque dans le privé, j'ai travaillé avec beaucoup d'anglo-saxons, enfin des actionnaires américains, mais aussi des experts britanniques, canadiens, etc. Et puis c'est aussi lié à mon passage dans cette structure de prospective que j'évoquais tout à l'heure. Et j'ai vraiment eu le sentiment que la France ne vendait pas suffisamment bien son modèle, pour parler crûment. Alors, vous me direz, c'est un peu contradictoire avec ce que vous nous avez dit, puisque vous avez vous-même évoqué la prégnance du modèle anglo-saxon, qui est un modèle avec un État beaucoup plus modeste, un modèle aussi où je dirais, la chose juridique est quand même beaucoup, beaucoup prise en charge par des avocats, par ce genre de profession. Alors, oui, c'est sûr que maintenant, j'ai tout à fait conscience que le monde n'est pas. Les relations internationales et les échanges internationaux ne sont pas à l'image de ce que la France voudrait qu'ils soient, bien évidemment. Mais je trouve aussi qu'il y a des éléments tout à fait intéressants dans notre modèle que nous gagnerions à mieux exporter. Et c'est la raison pour laquelle, avec un groupe d'autres hauts fonctionnaires, essentiellement originaires du ministère de l'Intérieur, nous avons souhaité créer cette association IDEFI qui a pour objet d'aider les experts français de toute spécialité à faire profiter les pays étrangers de leur expertise, de leur savoir-faire et ce faisant donc promouvoir un modèle français, qu'il s'agisse des aspects juridiques ou d'aspects plus économiques.
Et alors, donc, pour revenir sur votre passage à l'ENS, rétrospectivement, si jamais on vous demandait ce que l'ENS vous a apporté comme compétences ou capacités qui vous ont été indispensables tout au long de votre carrière, qu'est-ce que ce serait ?
J'ai du mal à répondre à cette question parce que j'ai du mal à faire la différence entre ce que j'ai acquis à l'ENS et ce que j'ai acquis en prépa. C'est une certaine capacité de travail, un goût pour l'abstraction, un goût pour le travail bien fait. Je dirais aussi Alors, est-ce que je l'avais avant l'ENS ou est-ce que... Oui, l'ENS n'a fait qu'approfondir ça. Curiosité intellectuelle, ça, certainement.
Et donc, quand on est... normalien, je ne sais pas si on se présente comme ça ou si on est connu comme ça dans l'administration, mais en tout cas, comment est-ce qu'on est perçu ? Est-ce que c'est plutôt une source de difficulté, de regard particulier des autres, ou est-ce que c'est un avantage et un vrai point fort dans sa formation ?
Je dirais que c'est un point fort parce que moi, ça m'a donné confiance en moi. Mais pour le reste, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. On ne vous en parle jamais. Je peux compter les fois où ça a été évoqué par des interlocuteurs. Je m'en souviens. On m'a dit « Ah, vous avez fait Fontenay ». Donc, puisqu'on disait Fontenay, « Ah, oh, vous avez fait Normale Sup ». Ça m'est arrivé, j'ai envie de dire, une fois dans chaque poste, c'est-à-dire une fois tous les 3 ans. Et c'est vraiment très, très rare, oui.
Il n'y a pas de différence ou elle se fait pas.
Disons que je remarque aussi quand quelqu'un a fait Fontenay ou Clou. Alors Fontenay, j'en rencontre jamais. J'ai rencontré des garçons qui avaient fait Clou. Ça, quand je le sais, je le remarque. Mais c'est même pas pour ça que nous l'évoquerons ensemble. C'est terrible. C'est comme un jardin secret.
Alors. Vous dites de l'évoquer ensemble, comme par exemple avec Yannick Blanc que nous avons rencontré donc il y a 15 jours, qui était là pour la précédente émission. Alors, peut-être que vous pouvez évoquer avec nous, en tout cas, un souvenir de cette période où vous êtes entré en 1975, donc à l'école de Fontenay.
Alors, c'est difficile parce que j'ai envie de vous dire que c'était une autre époque. Hein. Je vous parle d'un temps, etc. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Moi, ce qui m'a frappé à Fontenay, c'était la qualité de la bibliothèque. Et puis, c'était la possibilité d'avoir eu accès à un labo de langue, et qui était formidable. C'est grâce à ça que j'ai appris l'anglais. Hélas, quand j'étais avec nos actionnaires américains, là, j'avais quand même un peu perdu. Mais c'est grâce à ça que j'étais pas totalement ridicule. Des anecdotes. Écoutez, je suis désolée, mais je crois que je ne pourrais pas vous en citer Une seule. C'était une autre époque. Imaginez, Fontenay, c'était une école où il n'y avait que des filles. De temps en temps, il y avait un garçon qui passait dans les couloirs, d'un air un peu perdu, qui était un auditeur libre, comme on disait. On se disait, oh, c'est un auditeur libre, bon. Et c'était un monde ultra féminin où on croyait que pour réussir dans la vie, en gros, il suffisait de travailler et où on gommait tout à fait ce qui était misogynie, machisme et tout ce qu'on se prend dans la figure. Dès qu'on découvre le monde du travail, sorti de l'éducation nationale. Ça existe peut-être aussi à l'éducation nationale, mais c'est moins sensible. Ailleurs, on se prend dans la figure d'une façon qui était un impensé radical pour la jeune fontenaisienne que j'étais.
Eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse donc le mot de la fin sur cet autre monde qui était l'école de Fontenay. Mes chers auditeurs, Il y a une vie après normale, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, Sophie Coutor, d'avoir accepté notre invitation.